passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria de cette manière. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Que cet évangile, Seigneur, vienne sur nous, s'enracine dans nos âmes et nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà notre dernière messe avant la Pentecôte. Avant le grand dimanche de la Pentecôte, avec notre difficulté, la Pentecôte, c'est pour apprendre l'Église à chanter. Je prie, donner aux apôtres pour qu'ils puissent être harmonisés, chanter, être calmes, tranquilles, dans la paix, dans l'harmonie. Donc c'est tout à fait normal que dans l'attente de la Pentecôte, on puisse désirer cette grâce de la Pentecôte. Ça, c'est très bien. On termine ce petit séjour à Saint-Saturnin par cette messe. Une messe du 7e dimanche de Pâques, 7e dimanche de la résurrection. Pour vivre, vous allez venir de manière extraordinaire, d'une manière parfaite du mystère de la résurrection. Que la résurrection nous prenne tout entier. Et la résurrection, elle s'est faite silencieusement, elle s'est bien faite silencieusement, elle s'est faite dans le silence du tombeau, dans le grand silence des zones en nous qui ne parlent jamais, là où on ne parle jamais. Et quand on habite ce tombeau qui est en nous, ce lieu de la résurrection qui est en nous, et c'est sûr qu'on est très silencieux, très humble, très petit, et on est dans le mystère le plus grand de tout l'univers, de tous les temps, le mystère du tombeau, le mystère de l'amour tout pur, d'un cœur à l'état pur, d'un cœur ouvert à l'état pur, d'un amour à l'état pur, à l'état ouvert. Toutes les portes de l'amour sont ouvertes. Voilà ce que c'est, cette zone en nous, au fond de nous, silencieuse, où on vit parfaitement le mystère de la résurrection de Jésus, parce que la seule parole qui en jaillit, c'est Jésus. Et la nôtre ne peut plus en jaillir, vous comprenez. Alors, c'est à cause de ça. Apprendre petit à petit tout ce que le bon Dieu nous a essayé de nous susurrer à l'oreille tous ces jours derniers. Apprendre à vivre de ça, de la résurrection dans le silence de la pauvreté, de l'humilité de notre terre. Et de s'enfoncer, comme disait la première lecture que tu as lue, jusque, avec les 12 apôtres, jusque dans les 12 profondeurs de l'humilité de ce qui a été choisi comme membre de Jésus, comme corps de Jésus, comme amour de Jésus. Voilà. Alors bon, ben, je voulais simplement noter deux, trois petites choses dans l'évangile que nous venons de lire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'évangile donc de Saint Jean, ces fameuses prières sacerdotales, chapitre 17, dans l'évangile de Saint Jean. Il dit « Père, glorifie-moi ». Et alors bon, « Glorifie ton Fils, je prie pour eux, ceux que j'ai choisis. Je ne prie pas pour le monde. Jamais, jamais, nous ne prions jamais pour que le monde puisse continuer. Nous prions au contraire pour que ce monde qui est condamné à la mort aille plus vite à la mort. Puisqu'il y est condamné à la mort, autant que cette mort vienne le plus vite possible. Et on prie pour, non pas pour le monde, mais pour que l'Esprit Saint puisse être présent dans la terre des humbles, des pauvres et des petits. On ne prie pas pour ce monde qui est un monde perdu, perverti, périmé. Il est en retard d'un siècle, tandis que l'Église est en avance de 30 ans. C'est en avance au moins de 30 ans. Et le monde d'aujourd'hui est en retard de plus de 2000 ans. Il y a plus de 20 siècles de retard, frères. Ce monde est vraiment très en retard, très ringard, pire que le Moyen. Il en est resté au temps préhistorique de la corruption de l'homme, qui pense que, bon, il n'y a pas de Messie, qu'il n'y a pas de sacrement, qui pense qu'il n'y a pas d'adoration, qu'il pense qu'il n'y a pas d'union totale à Dieu. Très très en retard le monde d'aujourd'hui, il est foutu. Et au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure, il régresse dans un retard encore plus grand. Jusqu'à ce qu'il atteigne les années du déluge, où il sera totalement englouti et disparu. Il est condamné à la mort ce monde. Et Jésus ne prie pas du tout pour que ce monde puisse avancer. Il prie pour le monde ouvert à l'amour. Le monde nouveau, le monde de ceux qui sont tout petits, tout pauvres, et qui vivent spirituellement. De Dieu. Qui vivent spirituellement de Dieu. Pas imaginativement, pas orgueilleusement, pas vaniteusement, pas périphériquement. D'une manière familiale toute simple, d'une manière sensale toute simple, comme l'homme et la femme, année après année, décade après décade, 25 ans après 25 ans, siècle après siècle, millénaire après millénaire, éternité après éternité, car c'est bien ça la simplicité, c'est que dès qu'on vit dans le monde nouveau de Dieu, la terre véritable de l'homme, alors à ce moment-là, on devient des créateurs d'éternité. Des créateurs d'éternité. Pas des créateurs de perdition, de temporalité, de corruption. Parce que le temps de ce monde montre que tout ce qui est livré aux seules influences de ce monde mène jusqu'à la fleur elle-même à la corruption. Elle se fane. Tandis que dans l'amour de l'homme et de la femme, lorsqu'il est petit, simple, beau, humble, tranquille, fidèle, diaphane, spontané, quoi. Dieu est là, on est pauvre, on se pardonne, on se dit tous nos défauts, on s'aime quand même. On ne prend pas des moyens artificiels. Je ne vise personne. Je vise le monde. Alors à ce moment-là, oui. Ce monde-là est debout, il est debout et il a, j'allais dire, sa solidité dans sa source qui est Dieu. Et alors, vous voyez, c'est extraordinaire ce passage de chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Jésus, il nous donne vraiment la respiration, quoi. On se respire un peu.
Parce que dans le monde, on ne va pas prier pour le monde, il nous étouffe. Sauf si vous arrivez à respirer dedans. Moi, je ne peux pas. Jésus non plus. L'Immaculée, n'en parlons pas. Elle en est dévorée. L'Église, n'en parlons pas. Elle en crève. Le corps mystique de Jésus, il n'en peut plus. C'est un monde empoisonnant, empoisonné. Il est déjà mort. Tandis que Dieu est toujours vivant. C'est ça qui est extraordinaire. Et Jésus, il nous fait comprendre ça. Que malgré les apparences de ce monde corrompu et perverti, il y a des enfants de lumière, des étincelles de pureté. Et cette pureté, elle vient du cœur de Jésus, elle vient de l'Immaculée, elle vient des sacrements, elle vient de la prière, elle vient de l'humilité, elle vient de la simplicité, elle vient de la toute petitesse, de la pauvreté, elle vient de l'adoration, en une prière vérité, elle vient de la gloire de Dieu, de la victoire, de l'amour, de Dieu, c'est tout. Dieu y est présent, Dieu est totalement présent, Dieu prend tout. Jésus prend tout. Non, c'est pas, donc je disais que je voulais signaler trois petites choses dans le chapitre 17. Ça, c'était l'introduction de l'introduction. Bon, il y a... ne regardez pas vraiment. C'est simplement une petite remarque, voyez. Ce que tu m'as donné, petit et pauvre et simple, que tu as choisi, sorti de tout le monde pour me les donner, ils sont à toi et tu me les as donnés. Eh bien, Jésus dit, je vous fais remarquer cette petite chose. Il dit, tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et moi, je suis moi, Jésus, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Or, le Père donne-t-il plusieurs paroles au Verbe de Dieu ? Éternellement, le Père ne donne qu'un seul Verbe dans l'éternité glorieuse de la très sainte Trinité. Il n'y a qu'une seule parole. Le Verbe de Dieu est Dieu lui-même et il est donné comme Dieu et il est Dieu en Dieu. Et c'est l'unique Dieu. C'est le Dieu unique. Il n'y a qu'une seule parole. Un seul Verbe, un seul Dieu né de Dieu. Une seule lumière née de la lumière. Identique à cette même lumière, un seul engendré, identique absolument à l'inengendré. Et alors pourquoi est-ce qu'il dit que le Père ne donne qu'une seule parole? Ça c'est la foi, c'est l'évidence. Et puis il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui peut me répondre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me répondre? Vous avez une idée ou pas? Les paroles. À chaque fois que Dieu le Père a engendré son Fils dans l'éternité, il a prolongé cet engendrement du Verbe de Dieu à chaque acte créateur de chacun d'entre nous. Il a reprononcé le nom du Verbe de Dieu en constituant chacun d'entre nous dans l'ordre de l'être. Le Verbe de Dieu a illuminé tout homme au moment où il est venu en ce monde. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire, c'est que nous sommes tous fils dans le Fils dès l'acte créateur initial de Dieu. Et c'est toutes ces paroles créatrices de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans la grâce du Verbe incarné, dans la grâce du Messie, dans le Fils unique de Dieu, qui Jésus reçoit. Et il dit, voilà, les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues. Ça veut dire que dès qu'on est avec Jésus, non seulement on était déjà avec Dieu, mais dès qu'on est avec Jésus, eh bien on reçoit toutes les paroles que Dieu le Père a données au Fils, c'est-à-dire tous les êtres humains, dans leur innocence initiale, primordiale, fondamentale, capitale, sont entre nos mains, au fond de notre petitesse, au fond de notre pauvreté, dans nos mains, nous les tenons.
dans leur chair, dans leur esprit, dans leur corps, dans leur âme, dans leur destinée, dans leur vocation, dans leur nom. Dans leur éternité, dans leur sainteté, ils sont là. Voilà, dès que Jésus est là, on a toutes les paroles que le Père a prononcées à chaque créateur, avec leur destinée, leur vocation, leur oui à l'éternité. Nous les tenons, ils sont à nous. Ils dépendent de nous. Il ne dépend que de nous qu'ils puissent se lever comme des épis de blé au milieu de ce monde. Tu ne peux pas faire pousser le blé du cœur eucharistique de Jésus. Ça dépend que des apôtres, que de ceux qui vivent intégralement du mystère de la résurrection. Et qui vivent dans le cœur de Jésus. Une présence réelle de tous les hommes. De chacun. Une présence réelle. Voilà ce que nous dit Jésus ici. Les petits, les pauvres, ce sont les rois de l'univers. En toute vérité. En vérité, je prie. Et c'est pourquoi je prie pour cela. Je ne prie pas pour le monde, ce qui les empêche de pousser comme des épis eucharistiques, glorieux, pour l'éternité, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Alors, toute notre gloire, toute ma gloire, celle que tu m'as donnée, est en eux. Toute la gloire, Dieu, est en celui qui croit. Voilà l'avantage de sortir complètement de ce monde dépravé, perverti et fichu. Et de vivre dans la terre promise, la véritable terre, la terre eucharistique, la terre de l'Église, la terre sacramentelle, la terre du pape, la terre de la communion des saints, la terre de la Jérusalem d'en haut, la terre des 12 degrés d'humilité, la terre de l'esprit de pauvreté, du cri de Jésus dans l'éternité, cri d'amour, cri ardent, le cri du mariage. Alors on remercie donc, bien sûr, on fête le 50e anniversaire de mariage. 50e anniversaire de mariage. On fête 100 ans de mariage aujourd'hui. 100 ans. 50e anniversaire de mariage de M. et Mme Domelder. 25e anniversaire de mariage de Mme Moissé. 25e anniversaire de mariage de M. et Mme Belda. Ça, c'est ça le cheval blanc de l'Apocalypse. Hein? Il court, il court. Le monde peut courir derrière pour les supprimer, ils n'y arriveront pas. Ah, on fait 100 ans de mariage. On est compte, 100 ans de mariage. Le centuple. Ils n'arrivent même pas à tenir le mariage plus d'un an. Divorce tout de suite après. Parce que là, on en fait 100 d'un seul coup, on est compte. Le centuple. Et la promesse d'éternité. En fait aussi, tous ceux qui ont 6 mois de mariage. En fait aussi, ceux qui sont qui se préparent au mariage. En fait aussi, ceux qui sont issus du mariage. En fait aussi, le mariage, vous voyez, de l'esprit, de l'humilité, le mariage de notre naissance, de notre existence. Et son épanouissement, c'est l'humilité, c'est qu'on est humble et qu'on aime être pauvre. À ce moment-là, on peut recevoir tout, parce qu'on est pauvre, on est tout disposé, tout ouvert, tout silencieux, et le feu du Saint-Esprit peut embraser le monde entier.